Economica, Anne Isla.
Jacques Lavergne, bonjour. Bonjour.
Economica, ou comment rendre accessible à tous les faits et les idées économiques.
Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie, ravi de vous retrouver. On commence par la traditionnelle citation que l'on essaye de faire coller à l'actualité. Nous courons sans souci dans le précipice après que nous avons mis quelque chose devant pour nous empêcher de le voir. Eh bien, c'est une des pensées de Pascal.
Toujours d'actualité.
Voilà, elle est toujours d'actualité, bien que très ancienne, comme quoi finalement rien n'évolue, l'histoire se répète indéfiniment. Alors aujourd'hui, nous allons parler de croissance verte et d'écologie marchande autour d'un livre passionnant que personnellement j'ai très apprécié, qui s'appelle « La croissance verte contre la nature », sous-titré « Critique de l'écologie marchande ». Et c'est un livre écrit par Hélène Torchmann, qui est économiste, maître de conférences HDR, c'est-à-dire traduction, Anne HDR.
Habilité à diriger des recherches.
À l'université Sorbonne Paris Nord, et qui est également membre du Centre de recherche en économie de Paris Nord. Vous allez voir, c'est tout à fait passionnant. Mais avant, nous allons parler d'autre chose et nous allons parler de l'actualité des élections européennes. Et comme vous le savez, ça y est, l'Europe a un nouveau Parlement, bientôt une nouvelle Commission. L'un et l'autre vont pouvoir se pencher sur la situation économique des 27 qui est loin d'être brillante. Beaucoup d'investissements à réaliser et malheureusement peu de moyens pour le faire. Il faudrait dégager 750 milliards pour financer les grands chantiers que sont la défense, qui est entièrement à revoir et à reconstituer avec, comme vous le savez, une guerre à nos portes, dont on ne sait pas jusqu'où elle ira et quand elle s'arrêtera. La démondialisation, qui conditionne notre indépendance. Le digital, qui est en berne. La démographie, on y reviendra peut-être dans une émission parce que c'est important, qui stagne avec des populations qui ne se renouvellent plus, et notamment dans les pays du Sud, hein, Portugal, Espagne, France et Italie aussi qui souffrent, et la décarbonation qui pour l'instant fait du surplace, qui n'avance pas. Ce que le président de la MAFI, alors comprenez Association Française des Marchés Financiers, Stéphane Giordano, nomme les 5D. Défense, démondialisation, digitale, démographie, décarbonation. L'urgence absolue étant bien sûr la lutte contre le réchauffement climatique, une problématique quasiment existentielle pour les êtres humains. Et tout cela aura un coût, si on se réfère au pacte vert de l'Union, qui avait prévu 620 milliards d'euros. Alors comment financer tous ces besoins, tous plus urgents les uns que les autres ? L'Europe est certes riche, mais pas assez pour financer l'ensemble de ses chantiers. Surtout, sa croissance asthmatique ne peut pas soutenir pareils investissements, contrairement, par exemple, aux États-Unis. Il faut savoir que l'écart entre nos deux PIB, États-Unis-Europe, se creuse inexorablement, alors que ceci était comparable au siècle dernier. Celui de l'Europe s'élève aujourd'hui à 17 000 milliards d'euros, et celui de l'Amérique à 23 600 milliards d'euros, donc 50% de plus. Et si l'on regarde ce qu'il en est par habitant, c'est pire, 75 000 euros pour un Américain, 41 000 euros pour nous. Alors que fait l'Europe ? Eh bien, malheureusement, elle ne se bat plus vraiment, elle n'investit pas suffisamment, contrairement aux deux autres blocs que sont la Chine et les États-Unis, qui sont les maîtres des nouvelles technologies. Ce dernier pays se payant ses avancées, c'est commode pour lui, grâce à nos euros. C'est quand même assez paradoxal, car ils sont placés sur le marché financier américain et là, ils rapportent toujours plus, beaucoup et toujours plus. Selon toujours la MAFI, un tiers de l'épargne européenne sert à conforter les entreprises américaines et donc elle contribue à moderniser ces dernières, bien aidée également par l'État américain qui va injecter 350 milliards d'euros sur 10 ans, là où nous n'en affecterons, faute de mieux, que quelques milliards. Ce programme économique dénommé IRA, pour Inflation Réduction Act, vous voyez, je vous le dis à la toulousaine, permettra aux entreprises américaines de se décarboner et de développer des énergies propres. Et nous, et notre continent qui se réchauffe plus vite que le reste de la planète, nous resterons à la traîne avec les dangers que l'on sait. Alors pour l'instant, nous attendons les propositions de deux hommes mandatés par la Commission, deux experts chargés de proposer des solutions pour tenter de renverser la vapeur, s'il n'est pas trop tard. L'ancien président du Conseil italien Enrico Letta, qui a rendu lui sa copie en avril, et Mario Draghi, ancien président de la Banque Centrale Européenne, qui, si je me souviens bien, Anne, avait quand même contribué à sauver l'euro.
Oui.
Quelque part, hein.
Un peu, mais pas sauver la Grèce.
Hein. Non, pas sauver la Grèce, malheureusement. Alors, quand, il faudrait aussi que la Grèce aide toi, si elle t'aidera peut-être.
Hein, un oui, peu, mais en quand fait, même, c'est hein. Lui qui a dit il n'y a pas de vote démocratique contre les traités aux Grecs.
Oui.
C'est le même.
Ils doivent s'en souvenir. Alors, qu'est-ce qui va ressortir de ces rapports? Bien, peut-être que l'accent sera mis sur les entreprises, l'amélioration de leurs marges et l'amélioration de leur capacité d'investissement. Ce qu'il faudrait dire, si cela était, que l'Europe cesserait d'avantager le consommateur. Peut-être aussi ira-t-on vers un budget européen et donc un renforcement des dettes communes. Ça ferait peut-être plaisir à M. Macron, enfin, je ne sais plus trop ce qui lui fait plaisir aujourd'hui.
Non, parce que dans le budget, il y a aussi les recettes, hein, donc on n'augmente pas forcément les dettes.
Tout à fait, mais on parle d'un renforcement des dettes communes, mais là, nous aurons certainement une levée de bouclier de nos partenaires du Nord, que sont les Allemands et les Néerlandais, qui ne sont pas très pour des dépenses de folie, c'est un euphémisme. Hein. Mmh. On les appelle d'ailleurs comment ? Ils avaient un surnom à l'époque, les pingres ou je ne sais quoi.
Ah,
c'est pas très gentil pour eux. Mais une chose est sûre, et c'est Patrick Artus, l'économiste, qui le dit sans embâche, je le cite, « Éviter l'emballement climatique serait un investissement bien plus rentable que la chasse au déficit public. » Alors si cette chose était sûre, une seconde est tout autant. La France seule, sans l'Europe, avec ses 3 101 milliards et quelques d'euros de dette, serait condamnée à la paupérisation accélérée, n'en déplaise à certains qui voudraient s'en détacher ou la vider subrepticement de son contenu opérationnel. Suivez mon regard, j'ai pas besoin de les nommer. Une troisième chose n'est pas moins sûre, ce n'est pas en portant au pouvoir des populistes au programme indigent totalement déconnecté de la réalité, inspiré par des visions idéologiques et parfois plus que dépassées de nos sociétés, que nous allons résoudre ces questions quasiment existentielles. Il n'est plus l'heure de l'amateurisme populiste. Voilà ce que je souhaitais dire sur ces élections européennes, sur ce qui nous attend sur le plan économique, qui est quand même un peu soucieux. Je ne sais pas, Anne, ce que vous en pensez.
Ben oui, plus que soucieux. Et puis quand on parle de la Commission et du Parlement, il faut se rappeler que c'est la Commission qui a toujours le monopole de la proposition, que le Parlement a un rôle relativement faible politiquement. Donc oui, on est mal barré.
Maintenant, il y a quand même le Conseil. Alors les institutions, même si on parle de poussée d'extrême droite, donc il y a 10 ou 12 sièges de plus par rapport à ce qu'il y avait avant, qui se répartit entre différents partis qui ne sont absolument pas entre eux, donc ils n'auront pas à ce niveau-là, sur le Parlement, sur l'institution, ils n'auront pas une grosse influence politique. Par contre, le Conseil, qui est composé des politiques de tous les pays, politiques qui ont tous pris une claque parce qu'ils ont vu, à part les pays du Nord, ils ont vu l'extrême droite prendre finalement la première place. Là, peut-être, on pourrait avoir des surprises désagréables.
Oui, tout à fait. Mais c'est difficile de savoir ce vers quoi on va aller.
C'est sûr, prévoir l'avenir, c'est toujours compliqué.
C'est toujours compliqué, mais c'est vrai qu'on est mal barré.
Oui, on peut quand même avoir quelques inquiétudes, et puis il y a quand même une grosse inquiétude. Enfin, il y en a deux, c'est l'état de la géopolitique, et puis surtout, l'état de la planète, hein, avec une modification climatique, avec la pollution, et aussi et surtout peut-être l'écroulement de la biodiversité qui laisse présager à l'Homo sapiens quelques années difficiles s'il arrive à s'en sortir, ce qui est un autre débat. Allez, Anne, passons au livre d'Hélène Torchman, « La croissance verte contre la nature ». Encore une fois, j'ai dit tout à l'heure tout le bien que je pensais de ce livre et vous allez nous le démontrer.
Oui, je m'étais dit que pour finir l'année, une fois n'est pas coutume, on va parler sur le thème principal d'un ouvrage qui est déjà sorti il y a 3 ans d'Hélène Torchman, donc sur la croissance verte contre la nature, une critique assez importante de l'écologie marchande, c'est un peu un oxymore et ça rebondit un peu à ce que vous disiez sur l'urgence à éviter l'emballement climatique.
Critique importante, documentée et argumentée.
Oui.
Parce que là, voilà, ce n'est pas un simple catalogue de critiques. Non, non. C'est extrêmement fouillé et c'est, disons-le, convaincant.
C'est convaincant et puis ça peut nous donner à réfléchir. Ça peut aussi nous donner des arguments face aux climato-sceptiques et les gens de ce genre. Alors, les premières pages du livre d'Hélène Turgeman annoncent la couleur, instrumentalisation de toutes les formes de vie sur Terre, foi inébranlable dans les mécanismes de marché, appétit frénétique et démesuré du capitalisme industriel, recherche agro-industrielle aveugle et sans fin, fausse solution aux défis écologiques, hyper technologique, sophistiqué et souvent hors sol. Donc ce livre, c'est une critique, un récit radical et militant. Hélène Turgeman nous dit que le capitalisme industriel s'étend désormais au monde du vivant à travers le marché et la technique. Bon, Bernard Maris le disait déjà, dans le capitalisme, la technique est toujours au service du marché et du capital. Elle ne sauvera jamais la nature.
Et avec, avant eux, Illich, Élu, Chastenet...
Et bon nombre de penseurs sur ce problème-là. Alors, le capitalisme vert ou la croissance verte ne sauvera pas la nature, au contraire. Ce sont des expressions qui cachent un approfondissement du capitalisme industriel financiarisé. Donc l'écologie marchande a construit une novlangue, comme dans 1984, qui a des conséquences sur le fonctionnement de l'économie. Le langage, la rhétorique sont essentiels dans la production de concepts et l'acceptation de cette fameuse croissance verte. Alors parmi cette novlangue, il y a des termes importants, augmentation, convergence, efficacité, nanotechnologie, biotechnologie, information, cognition, bioéconomie, développement de la production d'agrocarburants. Donc dans ce livre, Hélène Turgeman donc propose de démonter tout cet argumentaire, toute cette rhétorique de la croissance verte.
En nous disant que les réponses apportées à la crise écologique, je la cite, sont insuffisantes, inadaptées, voire dangereuses.
Voire dangereuses. Alors comment est né ce projet bioéconomique ? On le voit déjà apparaître dès décembre 2001 à la conférence de Washington, conférence intitulée « Des technologies convergentes pour améliorer la performance humaine ». Tenue par la National Science Foundation, Fondation
bravo,
nationale de
accent,
la science.
Anne, bravo.
Oui, l'accent toulousain aussi. Et le ministre, mais c'est pas grave, en anglais. Et le ministère américain du Commerce, conférence qui sera suivie, bien sûr, de beaucoup d'autres. Il y a dans cette conférence des références au transhumanisme et à la technique comme solution à la crise climatique.
Alors, c'est le projet Convergence NBIC auquel vous faites allusion.
Oui, bien sûr.
Alors, traduction de NBIC, c'est nanotechnologie. Biotechnologie, science de l'information, science de la cognition.
Tout à fait. Alors, pour critiquer ce projet, eh bien, justement, Hélène Turgeman, va notamment mobiliser Jacques Ellul, donc un penseur du XXe siècle, qui est décédé en 1994, grand penseur de la technique et de l'aliénation au XXe siècle. Alors, que dit Ellul ? Ellul nous dit que la technique a des effets d'auto-accroissement. Les problèmes générés par la technique produisent de nouvelles solutions techniques qui produisent de nouveaux problèmes, qui produisent de nouvelles solutions techniques, etc. etc.
Ce qui fait qu'on invente un mouvement perpétuel.
Exactement. On parle aussi de ça en finance, mais bon, dans la technique, ça marche aussi. Et on a une idéologie techniciste qui consiste à croire que la technique fournira toutes les solutions aux problèmes et aux souffrances de l'humanité. Qui consiste à croire que la technique échappe au jugement de valeur, une idéologie techniciste qui alimente une ambition de contrôle, rendre la nature plus prévisible, plus productive, améliorer des processus biologiques, faire produire par le vivant décomposés et produits nouveaux, comme des bioplastiques par exemple. Donc tout cela, ce sont des nouveaux avatars d'une relation duale entre société humaine et autres êtres vivants. Alors cette technologie, cette idéologie techniciste s'est petit à petit répandue. Au départ, elle était cantonnée à des cercles spécifiques dans les grandes institutions internationales. On voit par exemple cette idéologie dans les rapports de la Commission européenne de 2004, 2009, 2012 sur les technologies convergentes, puis les technologies clés génériques, je cite la Commission. On voit cette idéologie techniciste dans le plan d'action de 2009 de l'Organisation de coopération et de développement économique en faveur de la bioéconomie. On le voit aussi dans les stratégies européennes de 2010, 2011, 2012 pour la bioéconomie, lors du Forum économique de Davos de 2018, sur la bioéconomie inclusive, là aussi, hein, je cite. Donc dans toutes ces rencontres, ces forums, ces rapports, on a une modification réglementaire pour favoriser l'innovation dans les domaines stratégiques des biotechnologies et du numérique, et d'une rhétorique qui va permettre d'apaiser les craintes d'insoutenabilité et même de se les réapproprier. Donc, en effet, un des tours de force de cette idéologie techniciste de la croissance verte, c'est la réappropriation des craintes relatives aux risques climatiques et écologiques dont le capitalisme financiarisé est responsable. Donc, Hélène Turgeman montre ainsi que lorsque la question des risques et des limites planétaires s'est trouvée posée, la bioéconomie s'est parée des adjectifs de durable, bioéconomie verte, pour essayer donc de se réapproprier les concepts et d'apaiser les craintes.
Manipulation et enfumage, pourrait-on dire.
Voilà, on peut le dire comme ça, novlangue et rhétorique. L'idée, c'est de faire croire que la bioéconomie contribue à la décarbonation de l'économie en offrant des substituts bio aux énergies et matériaux d'origine fossile. Pourtant, il existe d'autres discours sur la bioéconomie. Il existe des discours sur la sobriété, la suffisance, des discours qui donnent un autre contenu à la bioéconomie. Il existe une bioéconomie écologique qui est complètement mise sous silence par les institutions internationales. Alors, il y a un autre auteur aussi qui a travaillé là-dessus, sur ces différentes versions de la bioéconomie, c'est Franck-Dominique Vivien, qui montre qu'il y a trois discours dans la bioéconomie. Il y a la bioéconomie des biotechnologies, c'est un peu la vision de l'OCDE, donc de nouveaux procédés de production, des manières de consommer, des styles de vie qui entraîneraient le développement des biotechnologies. Il y a la vision plutôt Commission européenne d'une bioéconomie de la biomasse. Donc là, c'est l'exploitation de la biomasse à des fins de production, de carbone biosourcé, en vue de la substitution au carbone fossile. Et puis, il y a un troisième discours qu'on passe sous silence, c'est la bioéconomie écologique, donc une bioéconomie portée par des économistes de l'environnement et du développement, on essaiera d'en inviter un l'année prochaine, qui prennent acte des limites de la biosphère. Alors la rhétorique, la novlangue qui porte les deux premières formes de bioéconomie, donc biotechnologie et biomasse, va aussi chercher à découpler les expressions croissance économique, développement humain, impact environnementaux, ce qui permettra de recourir plus facilement aux instruments de marché plutôt que l'instauration de règles contraignantes. C'est une sorte de prise en otage de la bioéconomie en excluant la bioéconomie écologique qui, pour réfléchir donc l'avènement d'un nouveau type de capital.
Voulez-vous, Anne, pour on c'est se dur, pose c'est, un peu, là, pour on fasse une pause musicale, la première, oui, on pourrait.
Bien sûr.
Alors, je crois que c'est pas vous qui l'avez choisi, parce non, que nous avons en studio une jeune femme qui s'appelle
Héloïse Chaise.
Et c'est elle qui a fait le choix de la pause et qui va nous la présenter. Héloïse, qu'est-ce qu'on va écouter?
Une chanson de Billie Eilish, All the Good Girls Go to Hell.
On ne vous a pas présenté, Louise est en seconde.
En seconde,
en stage auprès de Danisla, l'université.
Oui, au laboratoire OLEREPS, laboratoire d'économie et de recherche.
Et donc, c'est peut-être la première fois qu'elle parle dans un micro.
Voilà, et donc, je lui ai demandé si elle pouvait choisir une pause musicale, parce que dans ce domaine, elle est un peu plus douée que moi.
Bah, c'est-à-dire, ce n'est pas nous, notre choix, c'est Nostalgie, là, c'est beaucoup plus moderne. On écoute?
Peut-être deux mots pour ce choix.
Je l'ai choisi parce que je l'avais entendu à la radio. Et quand j'ai regardé les paroles, ça correspondait au thème que Anne m'avait proposé.
Voilà. Donc il y a un choix réfléchi. Bravo, oui, Héloïse, et merci.
Sur la croissance verte.
On y va.
Joseph is lonely. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation. An open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside, I've got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. Lucifer is lonely. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help, wow. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. Lucifer is lonely. There's nothing left to say. My God is gonna own me. There's nothing left to say.
Voilà, notre première pause musicale est le choix de la stagiaire d'Anisla, le choix d'Héloïse que l'on remercie. Reprenons notre propos et nous parlions de M. Vivien et de ses oui. propositions et de ses conclusions surtout.
Donc Vivien montre qu'il y a une prise en otage de la bioéconomie qui va porter l'avènement d'un nouveau type de capital, ce qu'on appelle le capital durable, qui repose sur le déverrouillage par la technologie du potentiel productif de la nature. Donc on va articuler les termes bio, c'est-à-dire issus du vivant, et durable. Et ça, c'est un des éléments structurants de l'avènement du capital durable. La nature, plus intensément mobilisée, donc va pouvoir participer à l'accumulation et à la reproduction du capital. Et, on va pouvoir ainsi lever les problèmes de finitude des ressources, puisque la capacité à se renouveler est vue comme une caractéristique intrinsèque du vivant. Et chose supplémentaire qu'on va rajouter, c'est que l'on va pouvoir mesurer ce capital. Donc on va avoir par exemple la production d'agrocarburants, qui est centrée sur la recherche de nouvelles ressources plutôt que sur la réduction des consommations.
Agrocarburant, je parlais ce matin dans une autre émission que vous entendrez qui s'appelle Arcania, du trafic aérien que l'on veut décarboner. Et on a dit on va faire du biocarburant. Et donc on va créer 3 usines en France pour produire 7 hydrogènes, puis c'est de ça qu'il s'agit. Donc il faudra quand même beaucoup d'électricité, il va faire beaucoup d'eau. Il y en a une qui est du côté de Pau pour pomper à peu près dans le Gave de Pau 7,7 millions de mètres cubes, un Gave de Pau qui est quand même pas au mieux de sa forme, il faut le dire. Alors on va quand même lui rendre un peu de ce qu'on lui a pris, puisqu'on va rejeter 3,9 millions de mètres cubes d'eau qui seront relargués dans la rivière, mais après utilisation. Le problème, c'est qu'elle va être relâchée à 28 degrés. Pas sûr que les saumons vont beaucoup aimer. Hein. Et pour faire ce biocarburant, il faudra prélever chaque année l'équivalent de 1700 hectares de forêt. Donc, ce qui revient à abattre un peu plus d'1 million d'arbres par an. quand on sait quand même que le service, puisqu'on parle beaucoup ici de service de la nature vis-à-vis de l'homme, quand on parle du service que nous rendent les arbres, on peut se poser quand même des questions de savoir si tout ça est bien sérieux.
Oui, en effet, il y a toute une série de paradoxes qui sont mis en relief d'ailleurs par Hélène Torgeman dans son ouvrage. Hein. On parle de politique de neutralité carbone et ça justifie la déforestation. Ça justifie le pompage de l'eau, par exemple, dans le Gave. Ça justifie la dégradation de grands réservoirs de biodiversité au profit du développement de cultures énergétiques. Il y a d'autres paradoxes, hein, comme celui de la promesse d'une rupture avec l'extractivisme industriel qui va se solder par une exploitation accrue de la biomasse au détriment de l'agriculture paysanne et des capacités de renouvellement des écosystèmes, sans pour stopper pour autant la course aux énergies fossiles. La croissance verte rencontre systématiquement les mêmes limites, pollution, déforestation, consommation d'eau, érosion de l'agriculture paysanne au profit de l'agriculture industrielle, risques technologiques, et pourtant, cette croissance verte poursuit sa route. Alors, Hélène Torgeman ne dit pas que ce développement serait le seul fait d'un emballement de la technique qui se nourrit d'elle-même, insensible aux signaux environnementaux et aux alertes sociétales. Elle montre aussi le rôle de la réglementation financière, industrielle et scientifique qui va baliser la trajectoire en excluant d'autres possibilités de développement, de croissance, d'économie, de production, etc.
Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Inquiétant.
Alors oui, c'est extrêmement inquiétant. Alors on en avait déjà un peu parlé puisqu'on a parlé des règles de propriété intellectuelle dans une émission précédente qui encadre par exemple l'échange de semences, les règles aussi qui encadrent la conservation de la nature et la finance verte.
On avait parlé des biens communs aussi. Les semences ont été pendant très longtemps des biens communs. Aujourd'hui, elles sont passées à un stade de marchandise et donc on est rentré dans la financiarisation avec la brevetabilité du vivant, l'intrusion humaine dans les processus naturels. On a parlé tout à l'heure de ce MBIC et la création de semences entre guillemets augmentées.
C'est une privatisation des ressources biologiques.
Au profit de certains. Mais pas de tout le monde.
Quand on dit privatisation, c'est toujours au profit de certains.
Hein. Voilà, et de certains dont le nombre est quand même de plus en plus réduit.
Voilà, c'est pour ça aussi, moi, je préfère parler de commun plutôt que de bien commun. Mais bon, ça, on en a discuté aussi dans une autre émission, puis on y reviendra, bien sûr. Donc, on a privatisation des ressources biologiques, gouvernance fondée sur l'expertise et la comptabilité, développement des outils financiers appliqués à la nature. Donc on a déjà parlé hein, de ce fameux accord du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle. Donc c'est un point essentiel de l'histoire de la privatisation des semences. Cette privatisation se développe dès les années 90 avec une évolution conjointe donc du cadre juridique, des techniques d'amélioration génétique et du rapport de force entre acteurs publics et privés. On va créer des certifications d'obtention d'obtention végétale, les premiers brevets sur les organismes vivants, l'inscription dans le droit international, l'extension au processus métabolique, bon, etc. Et bien sûr, une concentration des brevets auprès de quelques firmes.
C'est toujours les mêmes firmes qui ont les brevets sur les semences, ce sont globalement les mêmes firmes ou associés qui vont produire les pesticides. Donc tout ça se concentre, et les agriculteurs et les consommateurs, eh bien, nous devenons les esclaves de ces grandes firmes.
Oui, on évince les agriculteurs de l'activité de multiplication de semences, on évince aussi les citoyens, on évince les États que l'on borne à un rôle d'arbitre et de garant des règles sous l'argument de la concurrence, qui doivent protéger les grandes entreprises du secteur semencier. Parallèlement, ce retrait des États et de leur capacité coercitive a autorisé une prise de risque financière et une prise de risque technique croissante. Donc ce processus a abouti à la concentration des droits et des connaissances auprès de quelques grands acteurs et ça augmente bien sûr les menaces d'expropriation de tout le monde, de tous les êtres humains, des plantes et des animaux des processus naturels fondamentaux. Donc ce mode de financement, le mode de financement de la recherche aussi, on peut rajouter ce point, qui doit faire appel de plus en plus au privé, a permis de transférer des inventions depuis les universités vers des start-up, puis des grandes entreprises à travers des licences d'exploitation en cascade. Donc, on a un enfermement progressif dans un solutionnisme technologique, entre guillemets, c'est pas très français, mais solutionnisme technologique, une réponse constante aux risques et aux inquiétudes soulevées par cette technologie. Alors, Hélène Torgman va qualifier même de « bullshit jobs ».
Bon. Elle n'est pas la première, il y a même un livre qui a ce nom-là, qui parle
bon,
de
ce genre. Bon, si on traduit en français, ça fait « travail à la con », on pourrait dire.
Oui, oui.
Les activités d'expertise et de recherche qui visent à évaluer les services rendus par les écosystèmes, les fameux services écosystémiques. Alors, au-delà du caractère provocateur de cette référence aux « bullshit jobs », la question est posée des modalités d'élaboration des choix collectifs et de l'interface entre science, industrie et politique. Pour l'autrice, les processus démocratiques n'interviennent finalement qu'en bout de chaîne, dans un jeu où experts et grandes firmes ont déjà façonné l'éventail des solutions envisageables.
Oui, ce qui veut dire que ça se passe en dehors de toute réflexion commune et de tout process démocratique.
Oui, tout à fait. Et on a un changement institutionnel qui aboutit aussi parfois à des contradictions. Par exemple, l'approche contractuelle instaurée par la Convention sur la diversité biologique, ça c'était en 92, pour assurer le partage équitable des bénéfices, a débouché sur l'exploitation des ressources et contredit les traités sur l'accès libre et gratuit aux ressources phytogénétiques. Donc, face à cette contradiction, eh bien, on a refait des textes, on a refait des règles juridiques. Et on va, par exemple, mettre en place le traité de 2001, traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. Là, c'est comme pour la technique, hein, qui va aussi engendrer des contradictions et donc des nouvelles règles, etc., etc. On a un processus de complexification dont on ne sait pas où il s'arrêtera. De même que la technique s'auto-alimente, comme disait Ellul, eh bien, le système juridique, les changements juridiques aussi s'auto-alimentent. Et puis, dernière dimension, et pas la moindre, la proéminence du secteur financier. Donc, le financement de la transition écologique fait appel prioritairement au secteur privé, plutôt qu'à l'impôt. Cette financiarisation n'est pas neutre, puisque les finances sont orientées vers des acteurs et des projets spécifiques. Et en outre, elle passe par des outils complexes et difficiles à appréhender. Donc, on a créé de nouveaux marchés boursiers, comme par exemple le Dow Jones Sustainability World Index, l'indice mondial de durabilité du Dow Jones. L'initiative sur les obligations climatiques, le label européen Transition énergétique et écologique pour le climat. Donc, tout cela montre tour à tour l'absence de remise en cause sérieuse du critère de maximisation de la valeur des actions. Les produits financiers de gestion des risques s'étendent à de nouvelles catégories, risques météorologiques, risques de catastrophes naturelles, risques de pandémie, qui, outre l'accroissement des phénomènes d'interconnexion, génèrent des effets pervers, par exemple l'absence d'action face à une crise pour favoriser le déclenchement de l'assurance. Donc cette financiarisation va consolider le contenu idéologique de la croissance verte. Cette idéologie va instaurer une relation entre société et nature, va dématérialiser la nature, va financiariser la nature. Donc la nature n'est plus une réalité complexe et matérielle, mais un ensemble d'objets désincarnés produits en vue d'une transaction marchande. Alors, bon, on pourrait parler longuement de tout cela, mais comment ça s'opère très rapidement? Par trois temps, on va définir, évaluer et valoriser. Donc, on définit, d'abord, on va inventorier et apposer des caractéristiques normalisées aux objets de la nature. Par exemple, on va mesurer les services écosystémiques produits par la nature. Donc, ce qui rend service à l'être humain, on est toujours dans une optique utilitariste. Ensuite, on va évaluer, donc on va construire une évaluation monétaire, donc une valeur de référence à ce service, Alors, c'est extrêmement technique, hein, le calcul de cette valeur, ce qui permet là aussi d'écarter les citoyens de la discussion. Et puis, enfin, on va valoriser la nature en proposant une formation d'un prix au travers de l'échange marchand. Et donc, il faut créer des marchés pour pouvoir échanger ces valeurs marchandes et ces valeurs financières. Marché de carbone, paiement pour services environnementaux, crédit à la biodiversité, etc. Donc, pour conclure, parce que je pense que j'ai déjà dit trop peut-être, Hélène Tardjouin montre que ces arrangements non seulement sont inefficaces, mais en plus ils sont pervers. Ils sont inefficaces en matière de ralentissement de la crise écologique. D'abord parce qu'ils sont basés sur des choses fausses. Dans la théorie économique néoclassique, le mécanisme de prix n'assure son rôle d'allocation efficace qu'en l'absence d'externalité. Or, les systèmes écologiques sont interconnectés, donc il y a des externalités environnementales qu'on ne peut pas internaliser. Et c'est pervers parce que ça participe à la financiarisation des esprits. Fonder la protection de la nature sur la rationalité économique, c'est-à-dire la recherche de l'efficacité et du profit maximum, consacre la révolution anthropologique portée par le capitalisme, où tout sens du collectif, de l'intérêt général et du bien commun a disparu. Bon, l'économie écologique ne se résume pas à donner une valeur monétaire au capital naturel et aux services écosystémiques. On en reparlera dans une autre émission, parce que là déjà ça fait beaucoup. On essaiera d'inviter à cette émission un spécialiste de ce domaine, il y en a, des économistes de l'économie écologique, même sur Toulouse, pour discuter de là où nous en sommes dans la crise écologique et climatique et comment en sortir autrement qu'en marchandisant la nature.
Oui, Hélène Tardjouin nous dit, prenez conscience, une prise de conscience générale. Elle appelle à cela de la nécessité d'un modèle beaucoup plus sobre et un changement de régime et pas une simple transition, ce que l'on nous propose, qui n'en est pas d'ailleurs vraiment une, on vient de le démontrer. Et la plupart des réponses apportées à l'heure actuelle aux défis écologiques reposent sur des fausses solutions. C'est ce qu'elle nous dit, hyper technologiques, sophistiquées et souvent hors sol. Et elles nous font poursuivre dans une voie sans issue, pas pour tout le monde, mais pour la globalité de la planète. Elles nous invitent à faire un pas de côté, à infléchir nos modes de pensée, d'action, et puis de dire au-delà du seul profit, il s'agit de réhabiliter les valeurs d'autonomie, de sobriété, de bien commun, et de vivre ensemble, et puis une impérieuse nécessité, sortir de l'agro-industrie et généraliser l'agro-écologie, puisque nous a beaucoup dit pendant une certaine crise que les paysans étaient là pour nous nourrir, ce qui est absolument faux, parce que des cultures vivrières, il y en a de moins en moins, et des paysans qui pratiquent ce genre d'agriculture, et également de moins en moins. Donc il faut peut-être arrêter de nous enfumer un peu sur tout, il faut que on se secoue et qu'on regarde la réalité. Alors je sais bien que les réponses simples et simplistes et basiques ont le vent en poupe ces temps derniers, mais bon, la société est de plus en plus complexe, le monde est de plus en plus complexe, nous sommes de plus en plus nombreux.
Et la réflexion doit être aussi complexe.
Voilà, donc il faut accéder, c'est sûr, c'est un peu plus compliqué, il faut se bouger, bon, on ne peut pas regarder Hanouna et avoir des réflexions complexes, mais si nos concitoyens veulent assurer notre avenir, le leur et le nôtre, et celui de la planète, il va falloir peut-être penser différemment et de façon un peu plus construite et documentée. On peut dire ça comme ça.
Tout à fait, mais il y en a beaucoup de penseurs qui pensent
comme
ça.
Font, oui, et qui le font. Et qui pratiquent.
Donc, il faudrait en fait les écouter.
Voilà, allez, un peu de musique là pour réfléchir. Là, on a été très sentencieux finalement. Donc, moi, je voulais vous faire écouter Françoise Hardy, hein, c'est l'époque, mais sur les conseils d'Anne, qui m'a fait écouter autre chose, c'est-à-dire les goguettes en trio, mais à quatre, que j'aime beaucoup, ben, je vous propose, il y a de la joie, vous verrez, là aussi, on est dans l'actualité.
Il y a de la joie, les élections européennes.
Il y a de la joie, 32% pour Bardella.
Il y a de la joie.
Pascal Pro est au 7e ciel, Bolloré se resserre du foie gras.
Il y a de l'amour
sur les lèvres de Marine Le Pen.
Il y a de l'amour
sauf pour le pauvre Éric Zemmour.
Il y a de l'amour
Vive la France arienne et chrétienne, les milices à chaque carrefour.
Après la défaite, selon Emmanuel Macron, pour sauver le pays, il n'y a pas de dissolution.
Tous les députés vont pointer au chômedu. Vont-ils retrouver un job en traversant la rue?
La campagne commence, va falloir rester zen. Même si pour être honnête, il y a de quoi flipper un peu.
On a voté Macron pour pas avoir Le Pen.
Et voilà que dans 3 semaines, on aura peut-être les deux.
Il y a de la joie.
La gauche est enfin rassemblée.
Il y a de la joie.
Pourvu que ça dure jusqu'en juillet.
Il y a de la joie.
Et ils ont en bon camarade visité Mélenchon à l'EHPAD.
Il y a de la joie.
Meurice viré de France Inter.
Il y a de la joie.
Et toujours rien pour Hanouna.
Il y a de la joie.
C'est la teuf dans la France entière.
Remets-moi une dose de Temesta.
Dire qu'on commémorait hier le débarquement, faudrait peut-être qu'on réserve le suivant dès maintenant.
Car pour les Jeux Olympiques le mois prochain, y aura peut-être comme un air de 36 à Berlin.
Si Bardella demain arrive à Matignon, est-ce qu'on pourra toujours vous chanter nos conneries?
Là y a pas d'autre mot, on a touché le fond.
Et si tu creuses encore, tu trouves Éric Ciotti.
Y a de la joie.
Tout à coup Marion Maréchal.
Y a de la joie.
Et pour le regroupement familial.
Y a de la joie.
Éric Ciotti se barricade à LR, maintenant c'est la ZAD.
Y a de la joie.
Et vive la suprématie blanche. Pardon, je prends juste un peu d'avance.
Y a de la joie.
Oui, on espère que dans un mois,
on n'aura pas la gueule de bois et que ce sera la joie. Allez, on y croit.
Ah, il y a de la joie, okay. Les goguettes en trio, mais à quatre, qui revisitent l'actualité à leur façon, bien plaisante, il faut le dire. Bon, quelques mots sur l'économie en Occitanie. Le 13 juin, Caroline Jamet, qui est directrice régionale de l'INSEE Occitanie, a résumé en quelques mots le bilan de la santé de cette région pour l'année 2023. Elle a dit ceci: dans le contexte inflationniste et de tensions politiques, la croissance fléchit en Occitanie, mais moins qu'au niveau national. Alors ça fait des années que je l'entends. Mais bon, à force de fléchir, il va bien se passer quelque chose. On nous dit, selon les secteurs d'activité, selon les zones géographiques, des disparités sont notables. Voilà, on n'est guère plus avancé. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. On nous parle de ralentissement économique progressif, d'un calcul qui se fait sur le nombre d'heures rémunérées, puisqu'au quatrième trimestre, leur volume dans les entreprises privées, et bien sûr hors agriculture, n'augmente plus que de 1,4% en Occitanie par rapport au même trimestre 2022, et contre plus de 2,2% entre les quatrièmes trimestres 2021 et 2022. Une augmentation qui, au niveau national, n'est que de 0,9%, ce qui veut dire quand même qu'on fait mieux. Alors, quel est l'atout occitan? Eh bien, nous dit l'industrie qui reste dynamique, plus 3% chez nous contre 0,4% sur le reste du pays, grâce, il faut bien que ça serve à quelque chose, à la reprise dans l'aéronautique qui était un peu en panne. Par ailleurs, l'Occitanie subit, comme presque partout en France, le fort ralentissement de l'activité dans le secteur de la construction, notamment en raison de la remontée des taux d'intérêt et de la hausse des coûts des matériaux. Bon, il semble que ça évolue un peu, que les taux d'intérêt rebaissent un peu, les matériaux, ça bouge pas trop. Une fois que ça a monté, c'est un peu plus compliqué à faire descendre. La baisse du volume de travail rémunéré est ainsi un peu plus marquée en Occitanie, moins 1,5%, alors qu'en France, elle se tient à moins 0,7%. Après une nette hausse en 2022, le volume de travail rémunéré progresse modérément dans la restauration et dans les services aux particuliers, respectivement plus 1,5% et plus 1,2% en Occitanie entre les quatrièmes trimestres 2022 et 2023. Alors, autre information économique, je ne sais pas si elle est vraiment économique, mais je ne peux pas m'empêcher de la donner, j'en ai déjà parlé ailleurs. Le conseil départemental fait des économies, en fait c'est ce qu'il veut nous faire croire, puisqu'il a sucré, excusez-moi du terme, la subvention au Théâtre de la Cité, un magnifique outil culturel, il a sucré à hauteur de 80%, ce qui fait que le Théâtre de la Cité en pleine période et sans qu'on l'ait prévenu, sans préavis, hein, à la Hussarde, on lui a sucré 180 000 euros, puisqu'il paraît que le conseil départemental est à la rue. Bon, ce qui ne l'a pas empêché de mettre ces mêmes 180 000 euros pour cette stupidité qu'est le passage de la flamme olympique. Qu'on prenne qui pourra, il y a des choix qui sont effectués par des politiques, paraît-il, qui sont de gauche. Bon, c'est pareil, il faudrait voir. Et des choix qui sont effectués au détriment de la culture. C'est quand même assez parlant dans l'époque où on est. Je trouve ça assez hardi. Je ne sais pas si les neurones ont faibli ou s'il y a une politique très subtile là-dessous du président du conseil départemental. Monsieur Vessini, je crois, hein, qu'il s'appelle, personne ne le connaît, mais enfin voilà.
Oui, mais 180 000 euros, c'est juste le prix que l'on paye pour avoir le passage de la flamme, parce qu'après, il y a toutes les dépenses qui vont avec.
Hein. Il y a tout le reste autour, donc voilà, c'est une décision très, très curieuse et qui a ému beaucoup, beaucoup de monde. On a d'ailleurs fait une émission, nous-mêmes, au Théâtre de la Cité, on s'est exprimé sur ce point sans avoir véritablement de réponse du Conseil départemental. Qu'on a interrogé, qui nous a renvoyé à la déclaration qu'il avait faite à l'époque, il y a quelques jours, là-dessus, hein, pour répondre aux critiques qui étaient faites, déclaration dans laquelle nous n'apprenons strictement rien, puisque c'est de la langue de bois. Voilà, ce qui n'est pas étonnant. Venons-en à notre dernière rubrique, les conseils, l'été arrive. Alors, bon, on va vous donner peut-être quelques conseils de lecture, je ne sais pas, Anne.
Moi, pas tellement de lecture pour l'été. D'abord, un article qui m'a été utile pour préparer cette émission, un article de Sandrine Alain, A2LIN, dans la Revue de la Régulation, que l'on trouve en ligne. Donc, je me suis inspirée.
La Revue de la Régulation, ça va être sérieux, austère, ça, non ?
Non, pas que, mais très intéressant. On a que des économistes très intéressants. C'est automne de 2021. Et puis, un autre tout petit livre, très vite lu, écrit par Ailton Krenak, qui est un membre du peuple autochtone Krenak du Brésil, et son livre s'intitule « Idées pour retarder la fin du monde » aux éditions Dehors.
Alors, idées au pluriel ou au singulier ?
Idées au pluriel, parce que les peuples autochtones d'Amérique du Sud ont connu une forme de fin du monde au XVIe siècle, après l'invasion de leurs terres par les Européens. Dans ce petit livre, donc, Ailton Krenak, figure éminente donc, de lutte autochtone au Brésil, se demande en quoi cet héritage ne pourrait pas fournir un regard averti avec la mutation en cours des conditions du maintien de la vie sur Terre. Ne serait-ce pas l'humanité organisée sur les fondements de la modernité, dont il serait plus à craindre qu'elle soit démunie des facultés d'adaptation requises, donc tout ce qu'on fait ne serait-ce pas plutôt les peuples autochtones par leur pratique ancestrale, leur stratégie ancestrale de résistance qui pourrait indiquer une voie susceptible de retarder l'avancée du désert et de la dévastation engendrée par le surdéveloppement technocapitaliste.
Très bien, sachant quand même que ces peuples autochtones ont vu arriver 180 ou 200 Espagnols qui leur ont refilé un tas de virus considérables qui les a éradiqués à 90%.
Oui, mais... Oui, tout à fait.
Alors, est-ce qu'ils ont des solutions ? On aimerait les connaître. À l'époque, apparemment, ils ne les avaient pas, mais ils ont peut-être découvertes entre-temps. Bon, moi, ce sera des livres. Alors, on en a beaucoup parlé. C'est un livre extrêmement éclairant et qu'il faut absolument avoir lu, qui est très agréable en lecture. C'est de Jacques Ellul aux éditions Pluriel et ça s'appelle « Le bluff technologique ». On a beaucoup parlé dans cette émission de Jacques Ellul et également deux livres du professeur Patrick Chastanet, qui est professeur à l'Université de Bordeaux, que vous avez déjà entendu sur cette antenne. Vous l'avez reçu pour « Les racines libertaires de l'écologie politique », que je vous conseille vivement, là aussi un livre où il va présenter cinq penseurs, dont Ellul, Charbonneau, Illich et deux autres. Et puis un dernier petit livre de Patrick Chastanet toujours, Introduction à Bernard Charbonneau. Alors c'est des gens qui ont vécu il y a assez longtemps, mais alors ce qu'ils écrivent, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont analysé et conclu est d'une modernité époustouflante. Tout ce que nous avons dit, tout ce qu'a dit Hélène Torchman, eh bien, il l'avait sous une autre forme, bien sûr, mais il l'avait dit et prévu. c'est assez confondant, il faut absolument les lire. Bluff technologique de Jacques Ellul, Racine libertaire de l'écologie politique, Introduction à Bernard Charbonneau, les deux derniers étant de Patrick Chastedet. Et puis, on a eu quand même des propos sérieux, techniques et graves. Alors pour nous détendre, eh bien, je ne saurais trop vous recommander la lecture de la trilogie new-yorkaise de Paul Auster, qui est récemment disparue. Paul Auster est un conteur hors pair qui sait vous tenir en haleine avec trois histoires, là, en l'occurrence, trois héros qui pourraient être la même personne. Un homme en quête d'une personne, en quête de sens, en quête d'une prochaine étape de vie, ou les trois à la fois. Le tout au travers d'une simili-enquête de détective. Chaque histoire est indépendante, mais en soi, aucune n'est réellement dotée d'un scénario digne d'intérêt particulier. Et alors, c'est fabuleux parce que vous lisez ça, phrase courte, un peu sèche, mais alors, vous ne lâchez pas le livre. Il y a une espèce de musique, d'envoûtement. Réel intérêt de l'œuvre réside dans les personnages, dans les termes traités. Je vous le recommande vivement, autant de thèmes. Hein. C'est quand même des thèmes très sérieux. Perte d'identité, solitude, le rejet par une métropole trop impersonnelle pour s'occuper de ses habitants, la Grande Pomme, New York. Mais autant de thèmes classiques, mais brillamment traités par Auster. C'est vraiment un vrai plaisir de lecture et peut-être de lecture de vacances. Voilà, Anne, nous sommes arrivés au bout de cette émission. Donc on va se laisser, se souhaiter d'excellentes vacances, puisque nous nous retrouverons au mois de septembre à la rentrée. On prépare déjà les thèmes. Anne a travaillé, bravo. On se retrouvera courant septembre pour la première édition d'Economica. Et bien d'ici là, Anne et moi, nous vous souhaitons d'excellentes vacances qui vont démarrer avec des élections aux résultats incertains, des Jeux Olympiques très onéreux qui vont mettre un foutoir fabuleux chez nos amis parisiens. On leur souhaite bon courage et puis on fera le point de tout ça au mois de septembre. Si vous êtes d'accord, Anne.
Oui, bien sûr. Bonnes vacances.
Merci. Merci à Léo Touroult qui était aux manettes. Merci à Héloïse qui a fait le choix de notre première pause musicale. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site d'Esprit Occitanie. À très bientôt, enfin très bientôt, oui, relativement, au mois de septembre, pour une nouvelle édition d'Economica. Belle journée à toutes et à tous.
Belle journée.